Il y a des circonstances providentielles lorsque on propose à l'équipe pastorale un sujet, on fixe la date. Alors il y a une date qui est celle du 26 mars, nous sommes aujourd'hui le 26 mars. Eh bien le 26 mars, c'est la deuxième mission paroissiale que Monseigneur Deval à organiser, et ça se passe en 1911. À l'issue de cette mission organisée par Mgr Deval avec les missionnaires diocésains, est inauguré et béni le calvaire qui se situe sur l'avenue de l'Est, le boulevard de l'Est, qui est aujourd'hui le boulevard d'Italie. Et il se trouve que avant-hier, vendredi, les étudiants ont achevé leur chemin de croix à ce calvaire. Vous voyez, nous sommes dans les jours anniversaires finalement de cette mission qui est comparable à un exercice de carême. Il y a d'autres circonstances qui m'ont fait aimer Monseigneur Deval. Il n'est d'ailleurs Monseigneur qu'à partir de 1925, et prélat de la maison pontificale. Donc ce qui me l'a fait aimer aussi, c'est qu'on trouve dans le bulletin de la vie paroissiale qu'il a fondé un article sur le père Mathieu-Henri Planchat, qui est une des victimes de la Commune, fusillé en Haine de la Foi, rue Axot à Paris, en 1871. Or, il se trouve que le père Mathieu-Henri Planchat, qui est né à La Roche-sur-Yon, est le premier prêtre des frères de Saint-Vincent de Paul, d'où est issue l'institution des Oblats de Saint-Vincent de Paul, dont je fais partie. Donc, c'est très sympathique de sa part d'avoir remis à l'honneur, on va dire, ce martyr oublié de père Mathieu-Henri Planchat. Et puis également, pendant la guerre de 14-18, il y a eu le chapelet organisé pour les militaires dans l'église Saint-Louis par un séminariste, plus que ça, même un prêtre qui était sergent 93e de ligne de l'infanterie à La Roche-sur-Yon, et qui s'appelait Alexandre Garnier et qui était frère de Saint-Vincent de Paul. Voilà. Et donc c'est lui qui a lancé le chapelet pour les militaires, où ils ont été d'abord 40, puis ensuite 200, puis ensuite 1500, vous voyez, presque tous les jours, jusqu'à leur départ au front. Ils étaient 1500 à prier le chapelet dans l'église Saint-Louis, ça devait être quand même assez impressionnant. Il fallait arriver assez tôt pour avoir de la place si on voulait prier le chapelet avec les militaires. Voilà, donc Monseigneur Deval a laissé, outre son mausolée, comme il a été dit, au cimetière du Point du Jour, que lui-même avait voulu pour les archiprêtres de Saint-Louis, il a laissé son nom à une place, à la place donc Monseigneur Casimir Deval, qui se trouve être à l'angle de la rue Georges Pompidou et de la rue de Rivoli. Voilà, c'est la place Monseigneur Casimir Deval. On va parler en technique, c'est rive droite de Lyon. Voilà. Voilà donc quelques points qui ont retenu mon attention pour proposer cette conférence, outre le fait qu'il est toujours intéressant de connaître un peu mieux l'histoire et les lieux où l'on vit et où la Providence nous a placés. D'autant plus que nous sommes dans le centenaire du diocèse de Luçon, d'où l'intérêt de ces conférences qui ont attrait à l'histoire de notre diocèse. Alors, Monseigneur Casimir de Val, comme cela nous a été dit tout à l'heure, est né en 1852 et mort en 1939. Il a été curé archiprêtre de La Roche-sur-Yon, avec une seule paroisse, Saint-Louis, de 1895 à 1938. Il avait 43 ans quand il est devenu archiprêtre de Saint-Louis et il y restait 43 ans. Et il a vu passer auprès de lui au moins 24 vicaires, mais qu'il a tous vu partir au moment de la mobilisation en 1914. Il s'est retrouvé donc tout seul à ce moment-là. Le document principal que j'ai utilisé, c'est le livre du chanoine Constant Charpentier, qui a été son vicaire. Constant Charpentier a été son vicaire pendant 5 ans, devenu chanoine ensuite, et qui donc a écrit cette biographie assez fouillée de Monseigneur de Val. Pour ce, il a utilisé les documents suivants, les archives paroissiales de l'abbé Rousseau, ses souvenirs et documents personnels, et puis le bulletin, comme nous en avons parlé tout à l'heure, la vie paroissiale de 1908 à 1925, notamment les articles de Mgr Deval concernant la paroisse. Et personnellement, j'ai donc utilisé ce livre, mais aussi le numéro de janvier 2016 des Échos du patrimoine lyonnais, réalisé en partie par William Chevillon et avec la collaboration du chanoine Rousseau. Également un livre de Yves Yollier et Michel Gauthier, La Roche-sur-Yon au début du XXe siècle en carte postale, avec un plan de la ville. J'ai essayé de comprendre, j'avoue que j'ai eu quelques heures de migraine pour comprendre la ville avec les noms qui changent, et même parfois les numéros de rue qui changent de sens. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas tout compris. Et puis aussi quelques documents collectionnés par un certain R.G., Robert Guibaud, qui se cache au fond de la chapelle de la Vierge Marie. Donc vous rappelez que cette période où l'archiprêtre Deval a été curé de Saint-Louis, c'est une époque tourmentée. Et c'est pour ça que le chanoine Charpentier a, on va dire, organisé son livre selon un petit peu les périodes. Selon les périodes de l'histoire de France. Si je retrouve dans ce que j'ai préparé ces dates, je vais essayer de vous les donner. En tout cas, si vous voulez, il y a les périodes de persécution religieuse, et puis ensuite il y a la période de la guerre, et puis ensuite il y a le retour à une paix relative. Je ne retrouve pas les références exactes que je voulais trouver, mais ça sera assez facile de les retrouver dans le cours de l'exposé. Donc un petit rappel, de 1900 à 1914, il y a 10 000 maisons d'éducation qui sont chrétiennes, qui sont fermées en France. 60 000 religieux et religieuses dispersés, 300 000 enfants à la rue, et les biens des congrégations, les fabriques des paroisses, les manses épiscopales, c'est-à-dire ce qui sert à faire vivre l'évêque et ses œuvres, tout ça s'est confisqué. En 1901, donc, loi contre les congrégations, et en 1904, séparation de l'Église et de l'État. Ce sera appliqué d'ailleurs pour Saint-Louis avec l'inventaire en 1906. le 22 janvier, application de la loi de 1904 à La Roche-sur-Yon. Alors, Monseigneur Deval va assister à cet inventaire qui est fait par Monsieur Texier, mais cependant, va bien dire qu'il y assiste, mais non pas pour donner caution, mais pour faire une réclamation. Et il ne signera pas, d'ailleurs, il ne signera pas. Mais son caractère, nous en parlerons, est un caractère très doux, très accommodant. Et il affirme les choses, mais avec beaucoup de calme et toujours très conciliant. Et donc, tout ça, toutes ces réclamations, toutes ces résistances vont toujours se faire sans qu'il ne se fasse aucun ennemi. C'est ce qui sera dit à sa mort unanimement. Le chanoine, l'archiprêtre Deval ne s'est fait aucun ennemi pendant ses 43 ans de pastorat à La Roche-sur-Yon. Donc il est né le 12 janvier 1852. Nous rappelons que le père Monroe mourra, lui, le 26 avril 1856, donc quand Casimir Deval aura 4 ans. Ses parents sont chrétiens. Il est né donc à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Son papa est entrepreneur de maçonnerie et Jeanne, sa maman, est mère au foyer. Sans profession, sans CENT, profession S. Il a une tante religieuse de la sagesse. Il a un oncle qui est curé de Fontaine. Fontaine, c'est au sud de Fontenay-le-Comte. Et il a un frère qui est prêtre spiritain à Saint-Laurent-sur-Sèvre, justement. Il entre à 10 ans, donc en 1962, au pensionnat Saint-Gabriel. On relève ses appréciations du supérieur de Saint-Gabriel, élève pieux, aimable, docile, travailleur, intelligent. Que des compliments. Il entre en 1965 au petit séminaire des Sables-d'Olonne. Son frère Célestin y est depuis 2 ans. En 1871, il entre au grand séminaire et il est ordonné le 18 décembre 1875 prêtre par Monseigneur Lecoq, évêque de Luçon. Il est nommé alors un professeur au petit séminaire des Sables-d'Olonne, ce qu'il assurera pendant 3 ans. Ensuite, il devient en 1878 professeur et directeur de l'Institut Sainte-Marie de La Roche-sur-Yon. L'Institut Sainte-Marie, c'est actuellement, si je ne me trompe pas, en gros l'emplacement du Collège Saint-Louis. En 1883, il est nommé vicaire à Notre-Dame de Fontenay-le-Comte, où, j'allais dire, il ne peut pas s'empêcher, vous verrez pourquoi par la suite, de créer un patronage. Il y restera 5 ans. En 1888, il est 18 mois curé de Saint-Hilaire de Mortagne. Puis en 1890, aumônier des frères de Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, ce qu'il assurera pendant 5 ans. Et voilà qu'en 1895, il est choisi par l'évêque de Luçon et en raison du concordat par le ministre des Cultes comme archiprêtre de Saint-Louis. Il est installé le 6 janvier 1895, donc il a 43 ans, il disait, c'est l'épiphanie. Et pour marquer déjà sa piété, nous pouvons dire que lorsqu'il marchait dans la procession d'entrée de cette messe où il allait être installé, il égrenait son chapelet. Sa devise était « Jésus-Marie ». Nous allons voir un certain nombre d'événements qui ont lieu entre son installation, ses noces d'argent pastoral, ses 25 ans de présence comme archiprêtre de Saint-Louis en 1920, son jubilé d'or sacerdotal, ses 50 ans de sacerdoce en 1925, où il reçoit également, il est élevé à la prélature. Et puis en 1935, son jubilé de diamant, c'est 60 ans de sacerdoce. Et ses 40 ans de pastorat à La Roche, 83 ans. Monseigneur Deval, on va dire pour l'instant l'abbé Deval, l'archiprêtre, Casimir Deval, est debout le matin à 4 heures du matin. Il s'est couché à 11 heures en général, 23 heures. Calculé, ça fait 5 heures de sommeil. Et il va tout de suite à l'église Saint-Louis et il se met en oraison à côté du confessionnal. Et de cette façon-là, il est prêt à recevoir tous ceux qui viennent demander le pardon du Seigneur. Donc là, il va passer presque 2 heures à l'église. Il dit son bréviaire, bien sûr, et à 7 heures, la messe. Quelles que soient ses obligations, et il en a beaucoup, il ne se presse pas. Il est très fidèle aux rubriques et il manifeste toujours une grande application. Jamais d'accélération, quelles que soient, encore une fois, ses occupations. C'est sa caractéristique. Tous les gens qui l'abordaient, il semblait les attendre et puis leur donner le temps qu'ils demandaient. Il savait sans doute aussi les renvoyer avec beaucoup de gentillesse. Voilà. Un autre aspect de sa piété, on va dire que ce sont d'abord l'amour de l'Eucharistie, manifesté donc par sa façon de célébrer la messe, et puis la dévotion envers la Vierge Marie. Ainsi, lorsque on commence à parler des divines louanges à la fin du salut du Saint-Sacrement, l'abbé Deval est un fervent zélateur des divines louanges à la fin du salut du Saint-Sacrement. Et c'est sous son impulsion que les divines louanges, Dieu soit béni, béni soit son Saint-Nom, sont répandues très vite dans tout le diocèse de Luçon. Pendant la guerre, tous les premiers vendredis du mois, il y aura adoration nocturne pour les hommes. Donc il y a un salut à la fin des vêpres, et puis, ça c'est le problème des fiches, et à la fin des vêpres, il y a un salut, et puis ensuite les hommes, une centaine d'hommes, vont se relayer pour adorer l'Eucharistie. C'est moins pratique que l'informatique, les fiches, parce que quand ça glisse... On retrouvera, on mettra de l'ordre dans les feuilles, un défaut d'ordre dans les idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis le matin, ça se termine, l'adoration nocturne se termine par la messe. Et à ce moment-là, ce sont les dames et les jeunes filles qui prennent le relais pour toute la journée du premier vendredi. Devant le Saint-Sacrement. Le troisième dimanche du mois, messe pour les hommes, ils sont environ 200 à 7 heures du matin. Et le soir se termine, toujours pour les hommes, par une procession du Très-Saint-Sacrement. Vous le devinez, l'archiprêtre Deval s'empressera de mettre en pratique les directives du pape Saint-Pie X sur la communion fréquente et surtout l'abaissement de l'âge de la première communion des enfants. Il va organiser même des congrès eucharistiques. En juillet 1910, un premier congrès eucharistique à La Roche-sur-Yon. Celui de 1911 est contrarié par la municipalité, parce que la municipalité propose un parcours humiliant, selon les paroles de l'archiprêtre Deval. Donc du coup, eh bien, et ça c'est aussi un trait de la personnalité de Mgr Deval, il rebondit et il fait sa procession et sa fête Dieu à Saint-André-d'Ornay, voilà, dans une prairie de la Brossardière. En 1922, il organise une croisade eucharistique des enfants. Autre aspect de son amour envers l'Eucharistie et du corps du Christ et du cœur du Christ, en 1902, il fait rénover complètement la chapelle du Sacré-Cœur à Saint-Louis. Saint-Louis a donc le Saint-Sacrement en l'église. En 1910, il fonde la confrérie du Sacré-Cœur. En 1918, à Saint-Louis, a lieu la consécration du département au Sacré-Cœur avec les sénateurs, députés, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement catholique et l'évêque, Monseigneur Garnier. C'est pas le dernier évêque, Monseigneur Garnier, c'est un autre. Je pense que avant que mes fiches tombent par terre, je devais pouvoir retrouver assez vite son nom. Et du coup, ça va être un peu plus difficile. Oui, voilà. Il y a un vitrail qui est dans la chapelle Saint-Lienne. À savoir aussi que la chapelle Saint-Lienne et le culte de Saint-Lienne, c'est l'archiprêtre Deval qui l'a voulu. Alors il est intimement lié, je vous en dis un petit mot tout de suite, à l'établissement de l'église du Sacré-Cœur, qui va devenir plus que ce qu'il avait espéré, une basilique, hein, la basilique du Sacré-Cœur, puisqu'il avait eu l'intuition d'acheter un champ qui s'appelait le champ de la justice, qui se trouvait dans le quartier de Forges, aujourd'hui le quartier des Forges. Voilà, et c'est là que va commencer à être installée la future église du Sacré-Cœur, puisque il a aussi, dans ses dernières années de pastorat à La Roche-sur-Yon, voulu établir deux autres paroisses, la paroisse de l'Immaculée Conception et la paroisse du Sacré-Cœur. Il y réussira pour ce qui est de la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception, donc là, ce qui est maintenant l'église Notre-Dame, qui était l'église, la chapelle des Pères de Chavannes, et puis donc il commencera pour le Sacré-Cœur. Il ne pourra pas achever, parce qu'il n'en aura pas ni le temps ni les moyens. Nous verrons peut-être, si nous avons le temps, pourquoi. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps en fait. Alors, dans cette chapelle de la Vierge Marie, nous avons aussi des souvenirs de la dévotion mariale de l'abbé Casimir Deval. En 1900, l'archiprêtre érige le vitrail de la Pentecôte dans cette chapelle. Le vitrail du milieu. En 1901, il y adjoint les deux autres vitraux, Assomption et couronnement de la Vierge Marie. Nous trouvons aussi, je pense, dans la chapelle Saint-Lienne, un vitrail des premières communions qui ont lieu à Lourdes. Souvenir donc des premières communions à Lourdes en 1911. C'est lui aussi qui fait venir à l'église Saint-Louis cette Vierge, qui est l'ancienne, sans doute, l'ancienne Vierge de l'église, de l'ancienne église Saint-Hilaire. Statue de l'ancienne église Saint-Hilaire qui a disparu, qui était sur l'emplacement actuel de Saint-Louis. En 1908, le 7 février, fut installée la statue de Notre-Dame de Lourdes, là où elle est actuellement, sur le premier pilier avant le cœur de l'église Saint-Louis. Et c'est par l'installation d'une statue de Notre-Dame de Lourdes aussi qu'il va appeler les dons pour faire ériger l'église du Sacré-Cœur sur le terrain de Forges. C'est d'ailleurs une pieuse paroissienne qui lui soumet l'idée d'attirer le cœur des Lyonnais par une statue donc de la Vierge Marie installée sur ce terrain appelé le champ de la justice. Donc ça, c'est le 15 août 1909. Et il y a également, en 1909, en juin 1909, donc c'est avant, l'installation rue d'Aubigny, qui est maintenant, je pense, la rue du Maréchal Lyoté. Il y a l'installation d'une vierge aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette statue de la Vierge, qui est là, pas loin du carrefour qui mène à l'église Sainte-Thérèse, je pense. Voilà. Elle venait du jardin des sœurs de Chavagne, rue Thiers, qui a été expulsée. Donc je vous ai parlé du chapelet, je n'y reviendrai pas. À se noter qu'en 1920, l'abbé Deval fait signer la pétition demandant au pape une fête de l'Immaculée Conception et la consécration du genre humain à la Vierge Marie. Il a encouragé toutes les confréries pieuses, il a restauré le culte de Saint-Lien, il a installé en 1899 une statue de Saint-François d'Assise, en 1900 il a fait décorer la chapelle Saint-Joseph, en 1905 il a accueilli les statues de Saint-Dominique, de saint François d'Assise, qui venait des sœurs de Chavagne également, de sainte Anne, et une mater doloroso, qui venait, statue de sainte Anne et de la Vierge des douleurs, du cercle militaire. Mater dolorosa, pardon. 1925, installation d'une statue de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est pas des statues, c'est des êtres vivants, mais c'est quand même l'archiprêtre, sans doute en 1925, qui accueille les Clarisses, maintenant devenues monastère de la Visitation, et qui accueille aussi, également exilés de Belgique, les victimes, les sœurs victimes de la Lune, où sont installées maintenant les Oblats de Saint-Vincent. Alors, il y a, au moment de son jubilé de diamant, il y a 40 prêtres et 120 religieuses qui ont témoigné de la ferveur de l'archiprêtre Deval, presque pour dire que c'était à lui qu'ils devaient leur vocation. Donc 40 prêtres et 120 religieuses. C'est dire la force de son témoignage, l'influence de sa prière, de sa vie, toute donnée au Seigneur. On l'appelait un petit peu le nouveau saint François de Sales de Vendée. Bon, ça c'est évidemment quand même. On fait l'éloge de quelqu'un au moment de ses funérailles, parfois, on tentait d'en rajouter un petit peu. Enfin, il a quand même fondé une association de prêtres qui s'appelait justement l'Association des prêtres de Saint-François de Sales. Il en a été le directeur. Ça a eu une influence sur tout le diocèse. À noter aussi, vous voyez, c'est un peu un désordre. En 1858, en 1858, 25 ans après leur fondation, les conférences de Saint-Paul sont à La Roche-sur-Yon, et quand il va arriver en 1895 à Saint-Louis, bien, il va mettre tout son zèle et une partie de sa fortune et toute sa sympathie pour soutenir les conférences de Saint-Paul à La Roche-sur-Yon. Il crée l'œuvre des pauvres malades. Il faut dire qu'il avait aussi un don, c'était de recevoir des héritages. Donc il a reçu pas mal d'héritages sur la paroisse, et en bâtiment aussi. Et il a acheté beaucoup de bâtiments grâce à ça. Et l'argent, lui, passait entre les doigts. De toute façon, il était sans cesse en train de dépenser pour l'évangélisation. Essayer de voir un petit peu de s'y retrouver. Une petite anecdote pour donner un petit peu de vie à cet exposé. C'était durant la Semaine Sainte, une poissonnière bien connue, à la voix retentissante, criait sur la place Gouvion, son refrain journalier. « à la vive, sardine fraîche, sardine !» Tout à coup, la dite marchande, dont Louis n'était pas très fine, ni les yeux bien perçants, crut entendre derrière elle comme un écho qui répétait doucement « Opaque, opaque !» Elle s'arrête un instant, hésite, mais croyant avoir mal entendu et ne distinguant personne, elle recommença à crier « à la vive !» Mais un écho qui se rapproche lui redit, sur un ton plus élevé « Opaque, opaque !» Elle se retourne stupéfaite et devinant plutôt que distinguant l'auteur de cette audacieuse intervention, elle dit en baissant la voix « Est-ce vous, monsieur le curé ?»« Oui, c'est moi. » »« C'est trop fort. Vous m'émotionnez et me troublez profondément. Alors vous voulez que je fasse mes Pâques ?»« Bien sûr, mais c'est surtout le bon Dieu qui le veut. » »« Quand serez-vous au confessionnal, monsieur le curé ?»« Je m'y rends maintenant. J'y serai jusqu'à ce soir et demain toute la journée. » »« Eh bien, j'irai demain, » lui répond-elle. Ainsi fut-il fait. Elle tint parole et depuis jusqu'à sa mort, elle fut fidèle à la communion pascale. Alors, ce qui marque le pastorat de Monseigneur Deval, c'est son souci de la jeunesse, donc des écoles et des œuvres post-scolaires, c'est-à-dire des patronages. Donc ça, c'est vraiment le souci qu'il aura le plus dès son arrivée. Dès son arrivée, il n'a que deux vicaires, il en demande à l'évêque deux autres, et il obtient très vite, et il découpe la ville de La Roche-sur-Yon en quatre quartiers, c'est assez facile, avec la rue de Nantes, la rue des Sables, la rue de Saumur et la rue de Bordeaux. Voilà, ça lui fait quatre quartiers, un vicaire dans chaque quartier qui doit sillonner son quartier et rendre compte une fois par mois au curé en équipe pastorale. Voilà. Sachant aussi que chaque vicaire avait du coup une semaine complète de service sur un mois. Quatre semaines dans le mois, une semaine par vicaire. Il faisait tout pendant une semaine. Mais monsieur le curé se réservait les œuvres de femmes et de jeunes filles. Attention au vicaire. Je commence à retrouver l'ordre de mes feuilles, c'est bien. Ça, c'était la fin, ce sont les paroisses qui se retrouvent au début de mon paquet de fiches. Alors, il y a à l'angle du boulevard de l'Ouest, qui est aujourd'hui Aristide Briand, et de la rue Molière, il y a le pensionnat des Sœurs de Chavagne. Et en 1898 ou 1899, l'archiprêtre Deval va y adjoindre deux classes de filles. Mais c'est un terrain qui est sans doute un terrain communal. Donc ça va avoir évidemment ensuite plus tard des conséquences. En 1903, il fait venir les Sœurs de Mormaison pour l'asile Saint-Joseph, qui se trouve qui se trouvait sur l'actuel lycée Saint-Joseph, enfin, actuellement Saint-François d'Assise même, le lycée Saint-Joseph. Donc c'était l'asile Saint-Joseph. Les Sœurs de Mormaison se sont sécularisées pour survivre. Toutes leurs écoles primaires, donc du département, ont été fermées. En septembre 1904, il déplace l'école des filles de la rue Molière à Mirville. Alors, Mirville, c'est sur le boulevard de Mirville, qui est aujourd'hui le boulevard des Belges. Et là, c'est le pensionnat des frères des écoles chrétiennes et ensuite de la doctrine chrétienne, qui eux aussi ont été interdits. Donc, quand les sœurs sont interdites, ils déplacent le pensionnat chez les frères. Voilà. Seulement, il y a une école de garçons, donc il va falloir qu'il déplace l'école de garçons dans un autre bâtiment. Il déplace l'école des garçons de la rue Molière à Mirville et fait aménager la chapelle de Molière en dortoir et les salles paroissiales, qui sont l'ancien cercle militaire. Alors, nouveau pensionnat des filles chez les Sœurs de Chavagne. Et vont s'installer au cercle militaire qui est la future école Jeanne d'Arc. Alors ça devient très très compliqué, hein, parce que du coup, sans l'ordre dans les feuilles, encore plus de mal. Hein. En 1911, l'asile Saint-Joseph est devenu trop petit. Il est transféré de rue Boileau où l'abbé Deval a acheté une propriété. Sans doute pour y mettre le presbytère au cas où, parce qu'il sentait venir les choses, au cas où la municipalité l'oblige à partir du presbytère. Et va s'adjoindre à l'asile Saint-Joseph, le patron des filles et la bibliothèque paroissiale. En 1914-1915, le collège Richelieu de Luçon vient occuper Mirville, car le petit séminaire est retourné à Chavagne où s'était installé le collège Richelieu. Du coup, l'institution Sainte-Marie fusionne avec Richelieu. L'école des garçons vient à l'institution Sainte-Marie en 1910, l'école primaire des garçons. Ça fait beaucoup, beaucoup de changements. On passe sur la bibliothèque paroissiale, sur la salle paroissiale. Ce qui est intéressant, ça va être évidemment de se dire que le cercle militaire a changé 7 fois de lieu. C'est justement l'abbé de Valle qui, chaque fois, a rebondi pour trouver aux militaires des locaux. Notons, puisque le temps passe, que l'abbé de Valle a beaucoup utilisé l'œuvre de la Bonne Presse. Il a fait en sorte qu'en 1895, que 400 exemplaires du journal La Croix soit distribué tous les jours par les bénévoles. Il y ajoutera bien sûr les publications de la Bonne Presse régulièrement et les publications du comité de presse paroissial, donc la vie paroissiale, auxquelles vont se joindre en 1909 le bulletin des patronages des garçons en garde et le bulletin des filles, des anges, de Sainte-Marie et de Saint-Michel. Fondation de syndicats des employés en 1922, syndicat ouvrier chrétien des dames employées de la Banque du commerce et de l'industrie en 1918, Je ne donne pas les commentaires qu'en fait le chanoine charpentier, parce que c'est un peu particulier. Disons que le syndicat féminin n'a pas duré très 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 longtemps. Un comité paroissial pour Saint-Louis en 1909, selon les directives de Mgr Cato en 1907, promouvoir et défendre les intérêts religieux, moraux et sociaux des paroisses. J'ai cité malheureusement des faits en vrac, comme mes feuilles. En 1912, il y a un premier appel qui est fait dans la vie paroissiale, le bulletin donc de Saint-Louis, pour pouvoir emmener des enfants en colonie de vacances. Ce sera la première colonie de vacances. Donc c'est l'abbé Poirier, qui est vicaire, qui va en août 1912 donc emmener les enfants pour leur première colonie de vacances à Bretignolles. Cette colonie de vacances est marquée en 1913 par un incident terrible. C'est la noyade de l'abbé Poirier qui a voulu donc essayer de sauver un enfant, Ferdinand Martineau, petit séminariste, qui malheureusement lui aussi s'est noyé. Alors, il faudrait aussi lire la belle homélie qui a été faite à cette occasion par Mgr Deval à l'occasion de la sépulture de Ferdinand Martineau, petit séminariste. Un passant apprit l'affreux malheur à la pauvre mère de l'abbé. Ô la douleur de l'apprendre aux parents du petit. Ô mère vénérée de mon cher vicaire, vous disiez, j'ai 5 fils et je les aime également. Oui, mais de celui-là, vous étiez si fière et si heureuse. Et vous, parents affligés, vous pleurez votre fils unique, en qui vous aviez mis toutes vos joies et toutes vos espérances. Nous l'avions donné à Dieu, disiez-vous. Dieu l'a accepté et l'a mis en son paradis. Vous, mes frères, vous perdez un prêtre pieux et dévoué. Vous l'avez vu à l'autel, en chair, au lit de vos malades. Il était apte et prêt à tout ministère paroissial. Ses prédilections étaient pour les enfants. Il formait avec soin mes petits clercs, et tout le monde admirait la tenue modeste et pieuse de ses enfants servant main jointe à l'autel. Le petit cercueil qui touche le sien, celui d'un séminariste. L'enfant avait l'esprit vif, le caractère enjoué, un cœur qui vibrait déjà à toutes les saintes causes. Pendant un an, il le forma à l'étude et à la piété. L'an passé, l'enfant entra au séminaire. Les vacances venues, le disciple était revenu auprès de son maître. La vie les avait unis, la mort ne les a pas séparés. Mai 1909, il fonde l'association cantonale des chefs de famille, là aussi en réponse au désir de Mgr Cato, dans sa lettre de carême de mars 1909. Donc une association des pères de famille pour la défense de la foi. Assemblée plénière le 19 décembre avec 500 hommes. En 1912, les 2/3 des municipalités de Vendée tiennent compte des revendications des pères de famille. En 1920, lettre au préfet contre des pièces de théâtre anticléricales et immorales et la présence des écoles normales obligatoires. À ces pièces, bien sûr. Il y a eu le petit patronage qui a été fait en 1907, appelé Sainte-Marie de rue Boileau, destiné aux écolières du public. Puis à toutes les écoles, tous les jeudis, 170 à 180 fillettes de 9-11 ans. Ça sera ensuite tous les jours pendant les vacances scolaires, durant la guerre. Caisse rurale et ouvrière de Crédit Mutuel en 1903. Patronage des Anges, 2 rue Boileau, avec l'abbé Joussaume comme vicaire. 350 filles au catéchisme. 9 réunions par semaine, par catégorie, 4 compositions écrites par an. 250 jeunes filles pour les conférences. Réunion des anges le dimanche après vêpres. Le patronage Saint-Louis a été sa première œuvre, donc il est arrivé en 1895, et le patronage de Saint-Louis a été créé en 1896. Et je vous dis dans le mille où ça se trouve, eh bien c'est une maison qui est prêtée, puis léguée à la paroisse rue Lafontaine par Madame Madeleine Daucher. L'abbé de Val s'était arrangé pour que ça lui vienne aux oreilles, à cette dame, qu'il avait besoin d'une maison pour son patronage. Et voilà, comme il savait que cette maison, elle allait pouvoir s'en séparer, elle a effectivement donné cette maison à la paroisse. Et donc il y a eu la maison qui est toujours en place, 10 rue Lafontaine, et tous les terrains autour qui sont aujourd'hui la salle de la FIAGEC, salle des sports. Bon, j'aurais pu aussi vous raconter comment c'est devenu aussi l'association footballistique de Vendée qui deviendra la Vendéenne. Voilà, donc c'est devenu le patronage. Il y avait un abbé très charismatique, un vicaire, l'abbé Fulneau. Et c'était déjà les horaires, presque les horaires d'aujourd'hui du patronage. C'était de 20h30 à 22h. Voilà, le dimanche après vêpres. Ensuite, ça a été l'abbé Léoté. 1898. Alors, plein de choses, hein, les pupilles, l'association de jeunes, une clique, une fanfare. Voilà. Le bulletin En Garde, c'était pas En Marche, hein, c'était En Garde du patronage Saint-Louis. La conférence et la conférence des jeunes Saint-Lienne. L'œuvre du jeudi aussi pour les enfants des écoles publiques. Messager de la vérité, Mgr Deval a d'abord utilisé les moyens ordinaires d'évangélisation, catéchisme, école, œuvre de jeunesse, prédication de tout genre, puis les moyens plus modernes adaptés à notre époque, la presse, le bulletin paroissial, auquel il faut joindre la bibliothèque paroissiale, et la salle paroissiale avec cinéma. La bibliothèque paroissiale s'est ouverte d'abord dans une maison sur la place Napoléon, qui avait une cour intérieure, et donc il y avait là une grande pièce qui s'ouvrait sur cette cour intérieure. On appelait cette maison, mais je ne sais pas où elle est, si quelqu'un peut me le dire, la maison Coutancé-Albertini. Place. Alors il semble que c'est plutôt place Napoléon, cette maison, Coutancé. Oui, Coutancé, Albertini. Donc on va parler des catéchismes, des patronages. La prédication, là, c'était un prédicateur, sinon brillant, du moins très, très simple, très onctueux. Est très vrai. Jamais, sous couvert de douceur et de bonté, il ne masquait la vérité. Il disait les choses, mais toujours avec beaucoup de douceur. Ni un grand auditoire ne m'encourage, ni un petit ne me décourage, pourvu que quelqu'un soit édifié, c'en est assez. Voilà, donc je vous envoie au document dont je vous ai parlé au début de la conférence pour retrouver un peu d'ordre dans tout ce que je vous ai dit. Merci de votre attention.
Merci.